RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
À vous de prendre la parole avec les GG, avec les grandes gueules en direct au 32-16. C'est la deuxième heure des GG en direct sur RMC, RMC Story avec Laura Barton-Martinez, la sophrologue, Abel Boyer, l'éducateur, et Jérôme Marty, le médecin généraliste. Deuxième heure des GG au cours desquelles on parlera des déserts médicaux avec ces patients dans le nord de la France qui vont chercher des dermatologues en Belgique. À tel point maintenant que les dermatologues belges ne veulent plus des patients français. Il faut quand même le faire. On réévoquera cette femme qui a été abattue dans une voiture à Nice. Le suspect numéro un, c'est un drame intrafamilial, hein, est lié à la famille. Il avait été interpellé pour violence conjugale, placé sous contrôle judiciaire. Il y a eu un raté, visiblement. Mais enfin, c'est compliqué de mesurer la dangerosité des personnes. C'est-à-dire savoir s'ils vont aller en cran supplémentaire, passer à l'acte et tuer quelqu'un.
On parle de violence aggravée quand même.
Violence aggravée, hein. Oui.
On en parlera tout à l'heure à 10h15 avec vous. D'abord, on va s'intéresser au paiement des stationnements.
Et ils sont les deux dossiers.
C'était qui ça?
C'est Marc Lavoine.
Ah bon? Oui.
Il est vraiment nul en chanson française.
Je reconnais. Sur 500 000 tickets qui sont pris chaque semaine, on parle de Paris là, 120 000 sont des tickets handicapés pour pas payer le stationnement. Alors est-ce que c'est honteux? Ou est-ce que c'est la révolte contre le racket de l'eurodateur? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les GG.
Il faut préciser que les personnes qui prennent des tickets handicapés ne vont pas sur les places handicapées. Mais ils prennent simplement le ticket handicapé pour payer le tarif handicapé. Comme les sulfateuses, parce que c'est comme ça qu'on appelle les sulfateuses APV, vous savez, ces véhicules qui passent dans nos villes maintenant, toute la journée dans les rues, elles font pas la distinction. Donc, elles flashent, elles voient si le ticket a été payé handicapé, mais la personne ne s'arrête pas pour vérifier s'il y a une carte handicapée, etc., et où précisément elle est garée. Les sulfateuses APV, c'est la nouvelle trouvaille des grandes villes pour ramener plein d'argent, et face à ce que certains appellent un racket fiscal, il y a certains automobilistes qui tentent de trouver des parades. Donc il y a cette méthode d'utiliser des tickets handicapés. Il y a par exemple aussi pour les scooters, par exemple à Paris maintenant le stationnement des scooters est payant. Et donc ils mettent des grandes bâches sur les scooters, je sais pas si vous avez vu ça, pour cacher la plaque d'immatriculation. Il y a aussi des petits malins qui mettent des feuilles des feuilles d'arbres collées sur la plaque d'immatriculation pour cacher un numéro. Voilà. Et oui, c'est ça, l'imagination est au pouvoir.
C'est bon, ça.
Plus finalement il y a de contraintes d'impôts, plus les gens essayent de trouver des solutions, parce que quand même, j'ai regardé les tarifs. Si vous avez un SUV à Paris, si vous voulez garer dans le centre de Paris, c'est 18 euros l'heure. Vous imaginez si vous restez la journée? Bon, bref, c'est-à-dire que ça te prend ton
c'est
salaire, quoi, en fait.
C'est
du racket. Alors, bien sûr, Monsieur Béliard, qui est l'un des adjoints de Paris, dit, c'est de l'incivisme. Alors, justement, est-ce que c'est de l'incivisme ou est-ce que c'est de la résistance?
Non, moi, j'ai complètement raison. Je ne citerai pas le nombre de personnes que je connais qui font ça. On m'a même appris, alors maintenant je pense que ça marche plus, c'était un code avec dièse, étoile, machin, truc, ça te faisait ton truc à zéro. Enfin, c'était un bug du système. Enfin, je veux dire, l'argent, encore une fois, on ne sait pas où il va. L'argent de Paris sert peut-être, des eurodateurs parisiens sert peut-être maintenant à payer, on ne sait quoi. Oui, c'est du racket pur et dur. C'est honteux. Il y a des gens qui passent quasiment leur salaire dans le paiement s'ils devraient le payer correctement. C'est une honte. Moi, je préférerais que ces petites, comment tu dis que ça s'appelle, les petites voitures qui se promènent?
Les sulfateuses à PV.
Voilà. Moi, je préférerais des sulfateuses dans des carrefours dangereux de Paris.
Des sulfateuses à dealer, peut-être?
Déjà. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à gérer que le stationnement parisien. Par exemple, toutes les incivilités des trottinettes et des vélos qui sont sur les trottoirs, des scooters qui grillent les feux et qui manquent de se tuer, des voitures qui roulent à tout berzingue avec le mec qui a sa musique à fond, le téléphone, la clope, qui voit pas les piétons. Voilà, je pense que ça aurait été beaucoup plus intelligent à mettre en place que de continuer à augmenter.
Ceux qui roulent avec des pneus usés. Hein.
Ceux qui... Il n'était pas usé. Il y a trop de trottoirs. D'accord.
Ceux qui roulent sur les trottoirs.
Voilà. Ah, je risque déjà mon mariage dans cette
Toulouse,
histoire.
C'est les stationnements, ça cartonne aussi.
Ça cartonne aussi. Ouais, dans toutes les grandes villes, ça cartonne. Non, mais. Moi, ce qui me hérisse, c'est la tartufferie de ces politiques qui sont les premiers à dénoncer les inégalités, qui vont dénoncer, par exemple, les médecins qui sont en honoraires complémentaires en disant « Oh là là, mais ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas se soigner, etc. » Et ça les gêne pas du tout que des gens au SMIC se prennent 18 euros de l'heure pour la bagnole s'ils se garent mal, etc. Ils s'en foutent complètement, là.
Oui, par exemple.
C'est-à-dire, là, vraiment, on regarde pas si la personne a de l'argent, si elle a pas d'argent, etc. Mm-hmm. Tout le monde a la même enseigne, et allez, et on taxe, et on taxe, et on taxe. Donc, les gens qui se prétendent de gauche et qui font ça, excusez-moi, mais c'est une tartufferie, mais alors extraordinaire.
Non, puis je vais alimenter
et ensuite, c'est l'imagination au pouvoir. Parce que, oui. On le disait, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a trop de taxes, mais on a des idées. Et moi, je trouve ça fabuleux, l'histoire de la plaque d'immatriculation qu'on cache avec une bague.
Ils ont raison.
Ou avec une feuille de platane. Parce qu'il faut savoir que, oui. Si tu mets une peinture spéciale qui rend réfléchissant ta plaque, là, par contre, tu es passible d'une amende extrêmement, oui, importante. Mais la feuille d'arbre qui se colle à la plaque.
C'est pas ta faute.
C'est pas ta faute.
T'as roulé.
Donc je trouve ça,
roulé dans la plaque.
C'est tellement français.
Et puis
c'est
aussi,
tellement français que, on devrait leur donner au contraire une prime à ceux qui font ça.
Et puis aussi, il y a le sentiment de se faire racketter, mais à toute cette communication anxiogène qui a été faite contre les automobilistes. Et si en plus tu as le malheur d'avoir un SUV, tu es limite le facho des écolos, tu vois. Donc,
oui.
Et c'est pour te faire culpabiliser. Moi, je roule en SUV parce que j'ai besoin d'un véhicule 7 places, parce que j'ai 4 enfants et j'ai pas culpabilisé parce que un ou une imbécile va me dire que je pollue trop, d'autant plus que sur ma vignette, je suis numéro 2 seulement et que j'ai le liquide AdBlue qui me permet de moins polluer. Donc, si on savait en plus où allait l'argent, parce que comme tous les sujets, on nous taxe, mais où va l'argent? Est-ce qu'on a des services de qualité? On n'en a pas.
Parce que philosophiquement, tu es prêt à payer le stationnement quand même en ville ou pas du tout?
Ouais, mais
faut
pas qu'on aille trop loin dans les augmentations, oui, parce que depuis 20 ans ça explose. Je me demande dans 10 ans où est-ce que l'on sera.
Mais pardon,
moi, je suis contre le paiement.
On a oublié.
Attends, tu es contre le paiement du stationnement. D'accord.
C'est quand même un frein. Alors déjà, de se garer, c'est un frein pour travailler. Je pense à mon mari qui a carrément dans son bilan un budget stationnement, tellement ça lui coûte une
bosse.
Il passe dans Paris, il a un gros camion, une grosse camionnette parce qu'il est plombier. Ça lui coûte une fortune, sans compter les amendes parce qu'il n'y a pas la place de livraison et qu'il va garer un camtar de 3 mètres. Tu peux pas. Ça empêche les commerçants de travailler correctement. Enfin, je veux dire, si c'était gratuit, et voilà. Et par contre,
les commerçants, ils ont des tarifs. Enfin, ils payent, mais.
Non, je pense aux clients des commerçants. Par contre, tu bastonnes le mec qui est garé, qui est mal garé, qui est garé sur un passage piéton. Tu le bastonnes, mais les gens qui se garent correctement.
Mais c'est pareil. Mais moi, je suis assez âgé pour avoir connu une ville comme Paris où la moitié des rues étaient gratuites. Et je me souviens, moi, j'étais automobiliste, tu cherchais la rue gratuite pour te stationner. En fait, on s'est mis dans la tête qu'il fallait forcément rendre tout payant, ouais, et qu'il fallait que ça coûte une blinde. Mais parce que les grandes villes aujourd'hui sont plutôt aux mains de ceux qui sont contre la bagnole. C'est des politiques anti-bagnole. C'est-à-dire que c'est
tout payant et moins de stationnement aussi.
Dissuader les gens de venir dans les villes en bagnole. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu un temps où la moitié de Paris était gratuite et je pense pas que la ville était moins bien gérée, qu'il y avait moins bien d'argent par la voie.
Mais c'est les mêmes.
En même temps, on apprend que Paris, ils ont 10 milliards de dettes. Donc, si tu veux, il y a un truc qui va
mais
pas.
C'est les mêmes qui se plaignent. Oh là là, on ne trouve plus de médecins. Ces salauds de médecins qui ne se déplacent pas avec ça. Et quand ils se déplacent, ils les taxent ou ils les en mangent, quoi. Le nombre de médecins qui prennent des PV malgré le caducé parce qu'on le respecte plus, on n'a rien à foutre, et qui se font emmancher pour une visite qui est à 40 euros. Enfin, je dirais, à un moment,
dans les grandes gueules, vous dites si c'est l'heure de la révolte contre les tarifs de stationnement.
Ouais. Ah, mais carrément. Bien sûr.
Ça ne sert à rien. Est-ce que tu trouves que ta voirie est plus propre? Est-ce que tes routes sont mieux entretenues? Est-ce que ça a changé de rendre les stationnements payants?
C'est comme tous les sujets, les Français sont prêts à payer s'ils en voient le résultat. Parce que la question, c'est où va l'argent? Il y a eu un slogan assez populaire pendant la campagne présidentielle de 2017, un tel rend l'argent. Eh ben là, les municipalités doivent rendre des comptes aux riverains.
doivent rendre des comptes aux automobilistes et arrêter de les criminaliser. Dans 10 ans, si ça continue, on va dire, si vous avez une voiture, vous êtes un criminel. Ou alors, non, il faut avoir une voiture électrique. Et d'ailleurs, on voit certains politiques qui sont dans une communication d'hypocrite. Vous roulez comment dans Paris ou dans Lyon? Ah, je roule en électrique, comme si c'était un gage.
Ah, tu de,
voilà,
pareil,
genre, je suis une bonne personne parce que je roule en électrique. Non,
par contre, tu peux commander 25 colis par jour sur Temu qui vient de l'autre bout du monde. En plus, c'est d'une illogie. Enfin, c'est illogique au possible. Tu ne sais pas comment la personne se comporte autrement que dans sa voiture.
On a Hector qui est avec nous. Il est du côté du 16e arrondissement de Paris. Bonjour Hector.
Bonjour Hector.
Oui, bonjour à tous. Merci bonjour, de m'accueillir.
Je vous en prie Hector. Justement, est-ce que vous aussi vous êtes en colère et en guerre contre le stationnement et le montant du stationnement?
Mais ou pas, comment ne pas l'être? Moi, je suis boulanger. D'accord. J'ai dit que j'habitais à Paris parce que je ne veux pas qu'il me remonte. Mais je viens tous les jours de Normandie. Ça me coûte entre 400 et 500 euros d'essence par mois. 150 euros de péage. Si je devais payer 5 euros de l'heure pour stationner, je viens plus travailler, je reste au chômage.
C'est ça. Ben
voilà. Moi, j'ai décidé de travailler, j'ai décidé de bien gagner ma vie, donc je suis obligé de monter sur Paris. Mais à un moment donné, on ne peut pas se faire racketter. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, j'ai ma mère qui est handicapée mais qui n'a pas de voiture, j'ai sa carte handicapée et je m'en sers. Sinon, je ne peux pas. Sinon, j'ai un enfant, je lui dis à mon fils, je préfère mettre 500 euros de stationnement que de lui acheter des vêtements et de la nourriture.
Oui, il a complètement raison, Hector.
C'est pas possible, c'est pas possible. Le parking, j'ai un collègue qui prend un parking, d'accord, il gagne 2300 euros par mois, il paye 200 euros de parking par mois. Enfin, faut arrêter. Qui nous fasse un stationnement à 70, 100 euros par mois pour les travailleurs? On n'a pas le choix, on commence à 3h du matin. Au bout d'un moment, on se fait racketter de tous les côtés. Et 400 euros d'essence, combien l'État prend dessus? 150 euros de péage, combien l'État prend dessus? Si je devais payer 5 euros de l'heure, mais je me fous en l'air, je travaille pas.
Alors Hector, vous savez que l'argent qui est collecté par les PV de stationnement va d'abord au trésor public, et ensuite donc à l'État, et ensuite l'État le rétrocède aux communes. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
Ça marche bien.
C'est une vraie manne aujourd'hui, Hector, parce que je regardais un peu les chiffres. À Lille, les PV de dépassement de stationnement, ça a rapporté 9,5 millions. À Marseille, ça a rapporté 8,5 millions.
Ouais.
À Nice, ça a rapporté 10,5 millions. À Paris, ça a rapporté 170 millions.
Et pourtant, il n'y a toujours pas.
Il faut rapporter la taille de la ville.
Il y a toujours pas d'hôpitaux qui marchent. Il y a toujours des problèmes de médecins. Il y a toujours des problèmes de tout. À l'école, ça ne va pas. Et pourtant, ils prennent 160 millions par an. Et nous, petits travailleurs, moi, je paye déjà 3 000 euros d'impôts par mois. Par an, pardon. Je paye 3 000 euros d'impôts par an. Je me fais prélever à 10%. Là, j'ai une petite maison, je vais essayer de la mettre en location, ils vont encore me défoncer. Enfin, je veux bien participer à l'effort collectif, excusez-moi s'il faut. Je veux bien participer à l'effort collectif, je veux bien participer à tout ce que vous voulez.
Oui, mais surtout, si ça marche. Non, mais pardon, mais moi, je veux qu'on me justifie le paiement d'un stationnement en bas de chez toi. Moi, je veux qu'on justifie. Pardon. Hein. Ou alors, sachant qu'on a déjà, on paye des impôts pour l'entretien des voiries, il y a les impôts foncières, il y a les taxes foncières, donc il y a déjà des impôts locaux pour tout ça. Je ne vois pas en quoi ça justifie, si ce n'est que c'est un moyen de lutter contre la bagnole, en fait.
Ben oui,
ça,
bien
je
sûr.
Serve de ça pour faire fuir la bagnole.
Criminalisation.
Comment
le malus, étaler les taxes sur les sols.
Autour de Paris, dans ces cas-là, tu assumes ta position, tu fais un
allez-y, Hector,
pour venir travailler. Comment je fais pour venir travailler quand je commence à 3h du matin?
C'est vrai. C'est vrai.
Expliquez-nous, les femmes de ménage qui prennent le premier RER, ça devient invivable.
Et d'autant plus que ça a été confié à des sociétés privées.
Ben oui.
Oui.
Qui ont plutôt intérêt à faire un maximum
de chiffres, évidemment.
Ils sont payés au
Ils sont d'ailleurs payés au chiffre. Donc, en fait, on est dans un système de rentabilité.
Hector, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Hector. À bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. Vous vous souvenez, en fait, notre génération, c'était de payer le moins de stationnement possible, tu les laissais s'accumuler et t'attendais le 14 juillet.
Oui.
Quand il y avait
ou l'élection présidentielle,
il y avait l'amnistie ou l'élection présidentielle, et puis tu disais allez, on passe l'éponge.
Je roule à 160 sur le périph.
Je vous demande d'accueillir Vincent. Ah, Vincent, bonjour.
Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour Vincent. Parce bonjour que alors vous êtes le champion du monde du non-paiement de l'amende.
Ouais, on veut tout savoir, Vincent.
C'est ça exact. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai 39 ans, je suis jeune permis, on va dire. Ça fait que depuis 6 ans que j'ai le permis. Donc j'ai habité sur Lille. Qui est Lille est devenue payante pour tous les stationnements. Maintenant, j'habite du côté de Béthune, qui est aussi payant. Et je ne paye jamais quand je me gare. Alors, j'écoutais un peu ce matin ce que vous disiez. Alors, faut savoir que moi, par exemple, je me gare jamais sur une place handicapée. Je ne prends jamais une carte handicapée. Alors, je pourrais très bien, mais je fais pas ce genre de truc. Par contre, je vous ai écouté. Et non, moi, quand je dois me garer, par exemple, tout à l'heure, j'ai été sur Béthune. Je me suis garé, tout simplement. Et je n'ai pas payé.
Mais comment vous faites alors? Parce que vous devez accumuler les PV quand même.
Ah non, ça fait 6 ans que j'ai le permis. J'ai eu qu'un seul PV.
Il n'y a pas beaucoup de contrôle à Béthune alors. Vous avez de la chance.
Là, c'était à Lille. C'était à Lille, ce PV-là. Alors, comme je disais à votre...
Il a enlevé ses essuie-glaces.
J'avais pris 17 000 euros, un truc comme ça. Mais non, jamais pris de PV. Là, comme je vous dis...
Vous n'avez jamais eu de saisie d'ATD, d'avis à tiers détenteur? Rien.
Rien du tout.
Ah donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle du stationnement alors.
Tous à Béthune. Un peu les Jacques Lelich. Attention.
On a encore de la chance comparé un peu aux Parisiens, c'est que nous on n'a pas tant de contrôle que ça.
Ah oui, c'est ça.
On n'a pas tant de contrôle. Alors sur Lille, là vu que maintenant t'es devenu piéton, à mon avis ça doit être un truc de dingue. Mais sur Béthune, non. Honnêtement, ce matin je suis resté une petite heure sur Béthune. Je me suis garé. Il était bien marqué payant, j'avais la borne à côté. Mais comme je vous écoutais ce matin, et puis je trouvais ça que c'était vraiment pas faux, c'est où va notre argent?
Oui, ben, au trésor public, et ensuite ça revient dans les communes, mais vous n'en avez pas pour votre argent.
Je suis chef d'entreprise sur un petit village à côté. Je paye mon URSSAF, je paye le foncier alors que je travaille chez moi. Et je ne vois pas cet argent-là. Quand on vous dit que là, j'ai des rendez-vous médicaux, qu'on me dit que je dois attendre 6 mois pour juste un petit rendez-vous médical de rien du tout, mais il faut attendre 6 mois. Je vois qu'il n'y a pas de prof dans le collège de ma fille. Je vois qu'il n'y a pas la sécurité.
Et voilà.
L'argent, il va où? Moi, je serais OK pour payer si je voyais l'argent. Ah,
si vous aviez un retour sur l'investissement, si je puis dire.
Ouais. On est censé être la 6e puissance mondiale. Honnêtement, on a l'impression d'être un pied.
On va redevenir la première avec l'effet lunettes.
Hein. Ah, ouais, ouais, ça, hein.
Attendez-vous, Vincent, est-ce que ça redécolle velu?
Tom Cruise de chez Wish est là.
Je croyais que c'était un Gorafi, les lunettes. Hein. Je vous assure, quand j'ai lu ça, je me dis c'est impossible, mais non, c'est bien possible.
Vincent, je vous remercie d'avoir été dans les GG.
N'hésitez pas à continuer ce que vous faites. Ça fait depuis mes 25 ans que je vous suis et j'adore ce que vous faites. Continuez comme ça.
Merci, Vincent. Bah, on vous envoie un livre dédicacé. Voilà. Sur les GG, 20 ans de succès aux éditions L'Archipel, on vous envoie le bouquin. Donc, tu as compris à Belboy, si maintenant tu veux venir à Paris, tu te gares à Béthune.
Voilà.
Tu te gares à Béthune et ensuite tu prends le TGV et tu viens ça.
On a vu avec Jacques Pélic qu'on fait Paris-Béthune en une heure. Donc.
Mais c'est vrai, tu as raison. On va regarder. Alors, incivisme ou résistance de ne pas payer le stationnement ou plutôt de prendre des tickets de s'arranger. Il faut se révolter. Voilà. C'est ce que vous dites à 75%. C'est la révolte du PV. Il y a eu la révolution des œillets. Là, je pense qu'on va voir la révolution du PV à venir en France.
C'est ce qu'on appelle une jacquerie.
Ouais, le drame de Nice avec cette femme qui a été tuée de 10 balles hein, quand même. On a retrouvé Didouille à bout portant, son bébé de 7 mois. Et celui qui est le suspect numéro 1, on recherche toujours. C'était quelqu'un de sa famille qui avait été placé pour violence conjugale et sous contrôle
judiciaire.
Sur la mère
du compagnon.
Oui, sur la mère du compagnon. Donc on a quand même un raté là-dessus sur la dangerosité du bonhomme.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Discussion, débat avec les GG, avec les grandes gueules, tous les jours au 32-16, avec aujourd'hui Laura Varton-Martinez, la sophrologue, Abel Bouillet, l'éducateur, Jérôme Marty, le médecin généraliste. On va revenir sur ce drame, ce crime qui a eu lieu à Nice il y a 2 jours, en plein après-midi, en ville. Vous savez, c'est l'assassinat de cette jeune femme dans une voiture, devant son bébé, c'est quand même, elle a reçu une dizaine de balles. Et alors, aujourd'hui, le suspect numéro 1, qui n'a toujours pas été retrouvé, en fait, c'est le beau-père du petit ami de la victime. On serait dans une espèce de règlement de compte intrafamilial, et pas lié au grand banditisme ou au narcotrafic, comme on avait pu l'évoquer. Enfin.
Oui, c'est pour ça qu'Éric Ciotti, d'ailleurs, a tout de suite réagi. Il est candidat à la mairie de Nice en disant « Nice ne doit pas devenir Marseille », parce qu'il était persuadé que c'était un règlement de compte entre narcotrafiquants, comme quoi parfois le responsable politique doit attendre quelques minutes supplémentaires avant de réagir. Ça lui évite de dire des bêtises, parce que c'est vrai, quand même, le mode opératoire ressemble à un mode opératoire de la grande criminalité, mais c'est visiblement un règlement de compte au sein d'une famille sur fond de violence conjugale. Bilal. Alors la jeune fille, la jeune femme a 23 ans, elle est morte. Selon certains témoins, elle aurait protégé son bébé qui était à côté d'elle en se couchant sur lui. Lui, il est vivant, il a 7 mois, il a été pris en charge. Le suspect numéro 1, c'est le beau-père qui est recherché. On apprend, cerise sur le gâteau, qu'il travaillait au sein d'une école. Il avait d'ailleurs un logement de fonction dans cette école. Ça a été perquisitionné, mais on ne l'a pas retrouvé. Il y a quand même des faits extrêmement violents, une dizaine de balles. Le raid est intervenu et on apprend que ce beau-père était connu pour violence. Il avait d'ailleurs été placé sous contrôle judiciaire. Là, il y a sans doute eu un manque d'appréciation de la dangerosité de l'individu. Il faudra d'ailleurs que la justice s'en explique. Mais bon, en général, elle rend assez rarement des comptes, la justice, malheureusement. Bref, il y a toujours un homme dangereux dans la nature.
Un féminicide de plus. Et c'est vrai que Christian Estrosi, comme tous les politiques, doivent faire attention parce que le modus operandi ressemblait.
C'était Éric Ciotti.
Le modus operandi ressemblait effectivement à ce que l'on trouve dans les modes exécutoires du narcotrafic. Mais là, il semble que c'est une violence intrafamiliale. Comme tu l'as dit, l'auteur était en garde à vue pour violence aggravée. Il faut rappeler que violence aggravée, c'est une violence qui laisse, et je parle sous ton contrôle, soit une ou des mutilations, soit quelque chose d'irréversible sur le corps. Donc c'est pas entre guillemets
ou
avec une arme. Donc on avait quelque chose de très grave. Il y a eu un problème d'appréciation, mais ce problème d'appréciation, on le retrouve dans énormément de cas de féminicide, malheureusement, avec des dysfonctionnements. Et pour les militantes, notamment, que je côtoie beaucoup, c'est encore un scandale de trop. On voit que tout ce qui a été mouvement MeToo, ça n'a été qu'un mouvement médiatique, mais qui n'a aucun impact sur le terrain, parce que la France reste un pays où tous les 2 jours et demi à 3 jours, vous avez une femme qui meurt sous les coups d'un homme. Et ce qui est intéressant, c'est le témoignage de certaines personnes, parce que plusieurs personnes ont témoigné que cette dizaine de balles ont été tiré en 2 temps. Il aurait tiré, on parle au conditionnel parce que faut attendre d'avoir plus d'éléments, il aurait tiré 4-5 balles d'abord, et comme il a vu que la personne respirait encore, il a encore tiré 4-5 balles. Et si c'est confirmé, ça c'est le modus operandi classique du pervers narcissique en fait, qui lorsqu'il tient sa proie, lorsqu'il s'estime propriétaire du corps de la victime, en l'occurrence d'une femme, lorsqu'il fait mal à la personne, que ce soit une violence physique ou psychologique, il veut voir que la personne crève sous ses yeux. Et c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, mais malheureusement, ça arrive trop souvent. Et pour finir mon propos, il y a quelques semaines, parce qu'il y a la question du contrôle coercitif que la justice prend trop peu en compte, je discutais avec une ancienne victime de violence conjugale qui m'expliquait avoir pris 2 balles dans la jambe uniquement parce qu'elle voulait sortir, aller faire la fête avec ses copines, et que le mec qui voulait contrôler tout son écosystème, toutes les personnes qu'elle avait le droit de contacter ou pas n'étaient pas d'accord, il a sorti une arme, il lui a tiré
là
dessus.
Ce qui est terrible, c'est qu'il y avait le bébé de 7 mois hein, qui était sur le siège passager, devant, ça ne l'a pas arrêté.
Il avait tous les signes, enfin comme Abel l'a dit, je le répète à chaque fois qu'on a un sujet de ce genre, soit sur des violences sexuelles, soit sur des violences physiques, une femme n'a pas de valeur judiciaire. On en a la preuve à chaque fait divers. Cet homme, le suspect numéro 1, qui a été condamné pour violence aggravée, il n'a pas mis juste une gifle à sa femme, bien que ce soit déjà trop tard. Mm-hmm. Violence aggravée, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à violence aggravée, il y a eu combien d'avertissements qui a été donné, soit par elle, soit par les gens qui ont été témoins. Il ne faut pas se dire il a fait un acte, il en avait déjà fait beaucoup. Donc cette personne-là, un homme violent avec une femme, est un homme violent qui le sera toujours, ça ne se soigne pas, vous êtes comme ça et c'est terminé. Et cette personne-là, alors que normalement une violence aggravée sur qui que ce soit, c'est 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, il part avec un contrôle judiciaire. Et après on est là en se disant c'est un drame. Non, ce n'est pas un drame. Un homme qui tire sur une femme à bout portant.
Il aurait dû être derrière les barreaux.
Il aurait dû être signalé pour violence et avoir notre fameux fichier de violence, de violence physique et de violence sexuelle.
Donc ça veut dire qu'on a mal évalué
sa dangerosité. Oui, moi j'estime que c'est pas la faute
et qu'on n'a pas su protéger la société.
Bizarrement, j'estime que c'est pas la faute des policiers. Parce que si cet homme-là a été condamné avec un contrôle judiciaire, ça veut dire que les policiers ont fait leur travail. Ça veut dire que le jugement de violence aggravée a été donné par la justice et qu'il a eu une condamnation trop petite. Mais il a eu une condamnation. Donc les policiers ont fait leur boulot. Ils ont pris la femme en charge. Ils l'ont livrée à la police. Encore une fois, la justice, la vie d'une femme n'a pas une importance particulière.
Oui, mais enfin, on met des gens en détention préventive pour, parfois pour moins que ça. Si
bah
oui.
Bah voilà.
Dire, non, mais il faut changer la loi.
Le juge, je ne sais pas s'il faut changer la loi.
Si, il faut changer la loi. On a parlé tout à l'heure. On a eu un débat. Tout à l'heure, on a eu un débat.
La loi, elle existe.
Non, mais
la loi.
Voilà, c'est non, mais il faut la durcir.
Au moment où il y a le jugement,
non, elle est déjà.
Il y a 50
mandats de défaut. Arrêtez de dire qu'il faut durcir les lois, puisqu'on les applique pas.
Mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. J'assure les gardes à vue depuis des années et des années. Je vous ai dit que 80% des motifs de garde à vue que je fais, c'est des violences conjugales. Quoi.
Ah voilà. Mm-hmm.
Donc il y en a marre, quoi. Comme tu dis, les femmes sont considérées comme moins que rien. C'est la réalité.
Oui.
Les gendarmes et les policiers font le job. Ça a profondément changé. Eux prennent au sérieux les choses. Mais manifestement, la justice s'en contre.
Ils ont même fait évoluer leur manière de recueillir le témoignage.
Il y a, à la fois les textes de loi. Et puis, il y a la justice qu'on apprend quand on est gosse dans les familles. On ne lève pas la main sur une femme. Je veux dire, on l'a tous appris. Quand
oui.
On est...
oui, mais d'accord.
Là, mais je veux dire, quand on en est là, dans une société, à faire cette barbarie-là, mais à tirer sur une femme avec un gosse d'accord. sous son ventre.
C'est terrible.
Je veux dire, c'est...
Je voudrais interroger le médecin, justement. Quand tu fais les gardes à vue, tu es face à la personne, d'accord, qui s'est rendue coupable de violences familiales. Mmh. Est-ce que tu arrives à mesurer sa dangerosité et à dire à ce moment-là, attention, là, on a une bête sauvage qui, à un moment, pourra passer à un cran supérieur ou commettre l'irréparable. Parce que ça, elle est là, la question. Mais, puisque lui, il est déjà condamné pour violence aggravée, on ne le met pas derrière les barreaux. Donc, ça veut dire qu'on sous-estime sa dangerosité. Répondre,
moi, il ne m'appartient pas de juger. Moi, je suis médecin. Oui, je suis juste là pour voir si l'état de santé est compatible avec les gardes à vue.
Tu peux voir.
Mais il ne m'appartient pas de juger. Et même, je te dirais que la plupart du temps, le motif, je ne le connais pas. Ça se fait à huis clos, et à huis clos, je peux interroger la personne et savoir qu'est-ce qui l'amène là. Mais logiquement, je n'ai pas à savoir le motif. Bon, je ronds le truc à certains moments, mais je dois dire que la plupart du temps, c'est ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on le sait tous, quelqu'un qui lève la main sur une femme, ça n'ira qu'en grandissant. Ça ne s'arrête pas. Si la justice ne tape pas fort, ça va continuer. Ça va continuer. Et la première chose à faire, c'est d'éloigner la personne de la femme en question.
Mais la famille,
c'est ce qui n'est pas fait. C'est très compliqué.
Mais c'est pour ça qu'il faut changer un certain nombre de choses.
Mais quand t'as une femme qui se prend une gifle, quand parle à sa mère, à son père, à sa cousine, et qu'on lui dit, oui, mais il était agacé parce qu'il a raté son match.
Et il y a toujours des bonnes excuses. Et tu sais, t'as posé la question sur le fait que ça se passe devant un bébé. Le pervers narcissique, il en a rien à faire. Le 7 janvier, Miora Raoni Malala, 46 ans, elle a été poignardée à mort par son mec devant leur fille de 9 ans. Qu'est-ce qu'il a fait le mec après? Il a poignardé la fille de 9 ans et après il a essayé de se suicider en se poignardant dans le cou. Et moi, je dis toujours aux jeunes filles auprès de qui j'interviens, arrêtez d'accepter que les mecs vous frappent. Arrêtez d'accepter que les mecs vous insultent même. T'es une connasse, t'es une ceci. Non, la violence, elle commence déjà verbalement. Arrêtez d'accepter que les mecs vous balayent. Le mec, il vous touche une fois, partez. Vos histoires de « mais je l'aime », partez parce qu'il recommencera. Ça peut plus
mais y a
continuer.
Le risque. Il y a le risque, justement, pour celles qui se disent si je pars, qu'est-ce qui va m'arriver? Où je vais? Oui, qui me recueille? Comment je fais?
Je suis d'accord. Là, il y a ce cas.
Après, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut mettre le type sous contrôle judiciaire.
Mais
Antoine, il y a des prisons.
Et on va aller sur des tabous. Laisse-moi aller sur deux tabous parce qu'on est au grand gueule.
Dans les pays, tu les loues.
Des fois, je suis désolé. Il y a aussi le côté culturel.
Oui,
exactement. Et je pense à Khadija, je suis désolé, hein. Et je suis pas raciste, je suis noir. Quand tu es d'origine africaine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Non, mais je fais une boutade. Quand tu es d'origine africaine, que ce soit maghrébine ou subsaharienne, c'est plus dur pour elle.
Bien sûr.
Parce que t'as toujours des gens qui vont dire, attention, la communauté, attention, ça va être rattrapé par l'extrême droite. Elles sont de plus en plus nombreuses à ouvrir à se libérer la parole pour
parler
dire que, attention, à
parler
ouvertement. Ouais. Parce que c'est pas normal. Oui, mais tu vois, si on dit que le mec c'est un arabe ou c'est un noir, l'extrême droite va le reprendre. C'est pas une question politique, là. C'est un homme qui frappe une femme.
Un homme.
Que le mec soit blanc, noir,
oui, non, arabe, ça... d'origine asiatique, d'origine indienne, on s'en fout. Et vous avez énormément de personnes.
Il peut y avoir le poids culturel.
Mais bien
aussi,
entendu, mais ouais. ce sont les premières non, à parler. Ce sont les premières à parler de dire, il faut pas trop le dire parce que sinon ça va être rattrapé par l'extrême droite. C'est pas un sujet politique.
Oui, mais il y a aussi, il y a pas que ça. Il y a, nous on le voit dans nos cabinets, si tu veux, on reçoit des femmes qui sont victimes de violences. Et ce qui prévaut quand même d'abord, c'est la peur, quoi.
Elles ont peur
pour leur intégrité physique, pour leurs gosses. Elles savent pas que faire parce que si elles fuient, elles ont peur de se faire rattraper, qu'est vengeance ou autre. Elles ont peur, elles ne savent que faire.
Mais ce que tu dis,
elles n'osent pas porter plainte, etc. Donc si tu n'arrives pas à pousser les choses, ça en reste là bien souvent, quoi. C'est ça le drame.
Donc ce qu'il faut se dire,
c'est que d'un iceberg qui est énorme. Mais la partie immergée, elle est pire.
Il faudra quand même s'interroger sur son emploi aussi. Que faisait-il dans une école, un logement?
Il a le droit, c'est pas grave.
Non, c'est pas
non,
ça.
T'as le droit de taper les femmes, ce n'est pas grave. Tu n'es pas jugé comme quelqu'un de mauvais.
Quel est le profil? Est-ce qu'il était connu pour être violent? Enfin, il y a des choses à creuser là.
Non, son seul casier judiciaire, c'était pour avoir.
Mais de toute façon, les pervers narcissiques sont toujours géniaux. Et le deuxième tabou, très rapidement, sur ces questions-là, moi j'en veux à l'ensemble des cultes religieux où on a des témoignages en pagaille, où quand la femme va voir l'homme ou la femme de Dieu ou la personne qui gère les cultes, mon mari me frappe, ma sœur, soumets-toi à ton mari, prie, il va changer. Combien de fois on l'a pas entendu? Mon mari touche l'enfant, ma sœur, soumets-toi à ton mari, prie jeune. Et les trois monothéismes sont concernés. Je ne dis pas que dans 100% des cas ça se passe comme ça, mais on a énormément de témoignages. Et la question du viol conjugal, elle n'existe même pas. Parce que vous êtes marié, la femme doit rester soumise à son mari. Donc parler du viol conjugal, ça n'existe pas. Donc il faut que vraiment la France puisse se réveiller sur cette question. Et c'est aussi un échec d'Emmanuel Macron parce qu'il avait dit que ce serait une priorité de son mandat.
Si vous aviez encore un doute, vous êtes bien. Écoutez les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Il est 11h20. Dans un instant avec les grandes gueules, on va regarder ce qui se passe dans le nord de la France où comme on manque notamment de dermatologue. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Parce que, pardon, hein, mais je vois un témoignage qui vient d'arriver là, à l'instant au 32-16, d'une femme qui nous a appelé, une ancienne femme battue, qui se cache de son ex-mari, justement. Et si vous êtes d'accord, on parlera du désherbage. Mais je voudrais qu'on écoute le témoignage de Jenna qui vient d'arriver. Jenna, patientez 3 minutes et ensuite on vous prend en direct dans les GG.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Juste avant qu'on fasse la pause en direct sur RMC, dans les GG, dans les grandes gueules, on était en train de parler de ce crime qui s'est produit à Nice et puis on a le témoignage de Jenna qui est arrivée. Jenna, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'être avec nous, Jenna. Parce que vous nous avez appelé parce qu'en ce moment même, vous vous cachez toujours de votre ex-mari.
Oui, je pense que ça sera définitivement comme ça. Pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que c'est soit je protège ma vie ou c'est malheureux d'en arriver là, mais à partir du moment où on passe 15 ans de sa vie à vous menacer, à vous dire je vais te planter, je vais te jeter de l'acide, au bout d'un moment, c'est soit je choisis de partir et je prends le risque ou...
Ça a été 15 ans de violence?
Ben oui.
Quel type de violence?
Tout, psychologique, physique, bousculade... crachat, tout.
Et qu'est-ce qui vous a empêché de partir avant?
L'emprise. Je me rends compte, et ça fait très peu de temps que je m'en rends compte.
C'est pour que les gens l'entendent.
C'est une emprise, parce que je suis quelqu'un qui a un fort caractère. J'ai toujours... je suis une personne forte, je le sais maintenant, parce qu'avant, je ne le pensais pas. Mais en fait, j'ai été quelqu'un de forte, mais malheureusement, ce besoin d'être aimé, ce besoin de ressentir cette présence, parce que voilà, c'est quand même ces gens, ces personnes avec ce caractère ont une présence qu'on ne peut s'empêcher d'avoir. On en a besoin, alors que au final, tout est faux, tout est manipulé.
Jenna, parce que là vous vous dites, je me cache toujours, mais le pire que vous ayez vécu, ça a été quoi?
En fait, ça a été le déclencheur de tout ça. Donc notre fils est arrivé. Les violences ont toujours été présentes et un jour, je dormais et il m'a asséné de coups au visage. Je me suis levée et je me suis évanouie. J'ai perdu connaissance, je ne sais pas comment, et je me suis réveillée avec mon fils en pleurs dans mes bras. Je ne sais même pas comment j'ai atterri dans le lit. J'avais mon fils dans les bras en train de pleurer. Je me réveillais de ses coups et voilà. Et déjà ça a été un déclencheur. C'est ça qui m'a permis de me lever et d'aller au poste.
Mais
je me suis dit voilà. pour cet enfant, il faut que je sorte de là. Et pour lui, c'est même pas que pour moi.
Mais vous avez porté plainte ?
Oui, j'ai réussi à porter plainte, oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
La police a très bien fait son travail. Ils sont intervenus. Il a été emmené et la suite n'a pas.
C'est-à-dire pourquoi?
Ensuite, il y a eu le jugement. Malheureusement, moi, j'étais encore un peu sous emprise. Ça n'a pas été facile tout de suite pour moi de tout dire.
Oui.
Et donc il a eu un sursis. Bon, après, je suis un peu restée encore, mais et puis après.
Vous êtes restée avec lui quand même après?
Alors, il n'y avait pas de droit de contact, mais voilà, ça n'a pas été respecté. Parce que de toute façon, lui est revenu. Voilà, il ne peut pas s'en empêcher. Pour lui, c'est comme une drogue. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir cette emprise. Et voilà, moi, je me suis fait avoir. Hein, oui.
Et vous, vous pensiez qu'il pouvait changer ou non?
Est-ce qu'il vous promettait de changer?
Non, ouais. Oh, sur le coup, oui. On se dit toujours.
Et oui.
Mais c'est vraiment quand je suis partie que j'ai eu le temps. Parce que je vous dis, ça fait un mois et demi que je suis partie. Je crois que ça fait qu'un mois que je me suis relevée. Je commence à me relever, que j'en parle, que j'arrive à en parler avec cette force que j'ai retrouvée. Mais parce que non,
pourquoi,
c'était pas possible.
Pourquoi vous vous cachez? Vous avez peur de quoi?
J'ai trop peur. J'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour ma vie. J'ai peur. Chez moi, j'ai 40 caméras. Tous les jours, avant de rentrer chez moi, je regarde s'il n'y a personne devant ma porte de suspect. Je suis toujours
parce
dans cette
angoisse. Parce qu'il vous menace encore.
Il a enlevé son jouet.
Il vous menace encore.
Non, mais c'est...
Vous lui enlevez son jouet, il veut le récupérer.
Il vous menace encore ?
Non, j'ai plus aucun. Alors là, j'ai tout changé. Ma vie, j'ai changé de numéro, changé mes adresses mail, tout. J'ai tout coupé.
Et avec l'enfant, comment vous faites ?
Eh bien, on passe par une association de visite. Pour l'instant, c'est une association de. Voilà, donc je le dépose, je ne vois pas monsieur, et je vais le récupérer. Mais après, la justice m'oblige à le donner demain à main.
Durant ces 15 ans, est-ce que vous avez eu du soutien au sein même de la cellule familiale ou pas, ou de sa propre famille à lui? Est-ce que vous leur en avez parlé en disant il est violent, aidez-moi, faites quelque chose?
Non, sa mère était présente, elle savait tout, elle entendait tout, mais
voilà.
Ils ont une emprise sur toute la famille. De toute façon, en général, ces gens-là, ils ont ce truc de dominer tout leur entourage. Ils sont vus comme des hommes, des dieux à l'extérieur en plus, parce que vraiment tout le monde ne lui lance que des louanges.
Et vos parents?
En intra, c'est tout le contraire.
Vous avez été aidé, vous, par votre famille? Vous avez du soutien?
Oui. J'ai ma mère qui était là, qui essayait de comprendre, qui essayait de m'aider. Mais malheureusement, quand on est pris, on se dit qu'on ne nous comprend pas et tout. Mais en fait, si, mais voilà.
Vous disiez quoi à votre maman?
Comment?
On essaye de vous faire parler parce que votre témoignage peut impacter des milliers de femmes.
Oui,
votre maman, elle vous disait quoi?
Est-ce qu'elle disait vraiment les mots? Mais je le voyais à son regard, déjà. Déjà, à son regard. Et puis après, des fois même, on a envie de dire qu'on esquivait le sujet. Mais je le savais. Au fond, moi, je le savais ce qu'elle pensait, en fait. Mmh. Et puis, des fois, elle me disait que c'était pas normal. Le comportement qu'il a. Mais après,
Je comprends pas, Jenna, pourquoi du côté de sa famille, alors que c'était su que vous preniez des coups et que vous étiez battue, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas aidé?
Parce qu'il ne faut pas nuire à l'image.
Ils ont fermé les yeux. Pourquoi ils ont fermé les yeux?
Je crois qu'à un moment, vous parliez aussi des communautés.
Exactement.
C'était quelle communauté? Je ne comprends pas. Dites-moi.
Il est tunisien. Voilà. Musulman. Donc la famille, c'est sacré. Ils ont alors de toute façon c'était toujours deux, il y a deux côtés,
on dirait.
Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais surtout dans cette famille là personne parle. On parle pas de privé. C'est chacun fait à sa manière comme il veut.
Et à chaque fois des circonstances atténuantes mises en avant, non?
Oui, bah oui, non, mais après, voilà, le pauvre, toujours. Ah. J'ai envie de ressortir le mot victimisation, je suis désolée, mais c'est ça. J'ai envie de le, il faut le dire.
Est-ce que je comprends
après,
pas?
C'est des victimes, les pauvres.
Ce que je comprends pas, et pardon, hein, moi, je suis effaré par les décisions de justice en général, et là, en particulier, oui. je comprends même pas qu'il ait encore un contact avec son enfant. Je veux dire, quand on bat la mère, quand on bat la mère de ses enfants, on ne doit plus avoir la garde.
Mais ça arrive.
Je suis désolé.
Mais
oui. On doit perdre l'autorité.
C'est pour ça que les femmes demandent.
Et donc, ça permet d'ailleurs de couper le lien. C'est-à-dire, oui, ça obligerait. C'est... Là, quand même, Jenna est obligée d'avoir encore un lien avec son bourreau.
Mais
parce
que
le civil, parce que le pénal et le civil sont séparés. Le mec peut être condamné.
Tu peux m'expliquer tout. Mais là, c'est une question de bon sens.
Je t'explique d'où vient le problème. C'est pour ça que les personnes demandent un tribunal familial comme ce qu'on a en Espagne ou au Canada, où le civil et le pénal sont traités au même endroit. Parce que le mec peut se faire condamner. Il peut même avoir une injonction. Tu n'as pas le droit de l'approcher à moins de 1 kilomètre. Je donne un truc comme ça. Mais t'as un juge des affaires familiales qui va estimer que le père doit toujours avoir accès à son enfant.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Jenna?
Le droit du père prime en ce moment. Oui, il y a que ce mot à la bouche. Pauvre, il lui faut son droit de père. Oui. L'enfant ne peut pas vivre sans son père. Si, je suis désolée. Voilà. Moi, j'assume très bien mon enfant. Il ne manque de rien. Je n'ai pas besoin de cet homme
dans
notre vie.
Et il n'a sans doute pas lui besoin d'un père violent en plus.
Non, mais c'est pour ça que tu as aussi malheureusement des femmes qui restent, parce que souvent la maman prend les coups pour les enfants et que tu, dans l'idée de laisser ton enfant seul avec ce bourreau, tu restes pour protéger ton enfant.
Dans les GG de Jenna, je vous demande de rester avec nous. On va continuer la discussion parce qu'on a un autre témoignage qui vient d'arriver. Témoignage fort et qu'on va écouter, celui de Jean-François qui lui a été condamné pour violence. Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Vous avez été condamné pour quel type de violence? C'était contre votre conjointe?
Oui, alors j'ai été condamné donc il y a 3 ans pour violence conjugale, car c'est de la violence, verbale et psychologique. Donc ma femme en avait marre. Alors moi, je ne voyais pas du tout ce que je faisais. C'était un peu dans du normal, je vais dire. Donc ma femme en a eu ras-le-bol et un beau jour, j'étais en repos et j'ai la gendarmerie qui est arrivée, arme au poing, puisque j'étais chasseur, donc il y avait des armes à la maison. Et je suis parti en garde à vue pendant 48 heures. Donc ça fait drôle. On se demande pourquoi. On cogite beaucoup pendant 48 heures. Et voilà. Et donc, je tenais à témoigner. Alors, c'est pas évident, je suis un peu ému. Je tenais à témoigner parce qu'en fait, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors, je fais pas une généralité, attention.
Vous êtes fait soigner? Vous êtes fait aider?
Alors, je vais être très clair. On ne change pas un homme violent. C'est clair, c'est net.
Merci de le reconnaître.
De le dire.
On change pas une personne. Jean-François.
Mais moi, j'ai eu beaucoup d'aide. Ouais, j'ai été suivi par le SPIP. Dans les Landes. J'ai été suivi par l'ADAVEM 40, qui est une association qui s'occupe des victimes, mais des auteurs aussi. J'ai eu un suivi psychologique et en fait, je me suis nettement amélioré parce qu'on m'a donné des outils pour redescendre ma tension, pour redescendre mon énervement.
D'où vient cette violence que vous avez en vous?
Alors, tous les suivis psychologiques que j'ai effectués démontrent que ça vient de mon enfance.
Vous l'avez subi lorsque vous étiez enfant?
Non, j'ai pas subi, j'ai vu.
Vous avez vu?
C'est le schéma qui se répète.
Vous avez vu la violence de votre père?
Oui, tout à fait. Ouais. L'alcoolisme, la violence, oui, tout à fait. Ouais. Alors, je tiens à dire que c'est mon vrai prénom. Hein. Donc, j'ai pas honte de ce que j'ai fait.
Jean-François, non, mais c'est bien de témoigner.
Mais c'est très important ce que vous faites.
Mais Jean-François, quand ces pulsions de violence arrivent, qu'est-ce que vous faites maintenant pour essayer de les maîtriser?
Alors, je la sens arriver déjà. Donc, j'arrive. Le but d'un homme violent, en fait, pour que ça cesse, il faut surtout pas aller dans le conflit. Je vais vous dire, moi, j'ai été condamné, donc voilà. Ça fait 3 ans. J'avais 2 ans de probation et donc il y a un an, j'avais toujours un peu de contact avec mon épouse puisqu'on a un petit. Il y a un an, mon épouse m'a proposé de revivre ensemble. Voilà. Et ça fait un an que je suis revenu au foyer. Alors, on est divorcé. On est divorcé. Elle a voulu divorcer, mais elle m'a laissé une seconde chance. Il y a un an, ça fait un an que je suis avec elle, avec mon petit.
Et alors, ça se passe bien?
Ouais, ça se passe. Alors, il y a toujours des petits moments, comme dans chaque couple, de petites engueulades, de ceci, de cela. Mais faut redescendre, quoi. Faut se dire, voilà, hop, 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 stop. On va pas monter, on va pas aller dans le conflit. On s'est engueulé, c'est tout, c'est passé, terminé, quoi.
Moi, Jean-François, je voudrais vous remercier, parce que au-delà du courage que vous avez de témoigner, votre parole vient de donner une légitimité à un nombre de femmes dont vous n'avez pas conscience. Je vais pas vous glorifier. Vous êtes l'un de mes combats principaux. Mais ce que vous venez de dire là, vous venez de donner raison à énormément de femmes et de dire ce n'est pas de votre faute, le problème vient de moi. Alors ensuite, il vient de problèmes plus vieux, mais c'est important qu'il y ait aussi des gens qui en parlent quand ils ont été bourreaux.
Je remercie Jenna et Jean-François pour ces deux témoignages forts maintenant qu'on a eu dans les GG. Merci à tous les deux. Suite des grandes gueules, dans un instant, on accueille Sarah Knafo, candidate reconquête à la mairie de Paris.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.